un concours Lépine fiscal qui dépasse l'entendement.
Le Rassemblement National, aidé par la France Insoumise, ont voté des horreurs pour notre économie.
Pour l'instant, là, le compte n'y est clairement pas.
Ce texte qui, on peut se demander, dont on peut se demander s'il aura une seule voix pure.
Je suis contre.
Mais ça sert quand même à une chose, c'est d'expliquer par chaque amendement les mesures qu'on prendrait si nous étions au pouvoir.
Jamais les ultra-riches ne se sont aussi bien portés. C'est l'INSEE qui le dit. Un pavé dans la mare de la discussion budgétaire. C'est le sommaire de ce numéro 133 du Bourbon de Serge. À l'heure où une assemblée nationale, habitée par une fièvre bolchévique, entend tordre le cou aux plus fortunés des Français, une enquête salutaire est venue nous rassurer sur la santé de cette espèce qui est loin d'être menacée. Mardi, l'Institut national de la statistique et des études a livré son édition 2025 du portrait social de la France. On y découvre que les ultra-riches se portent de mieux en mieux. Depuis 20 ans, leurs revenus se sont envolés. Grâce à l'action déterminée d'Emmanuel Macron, le Robin des Bois des riches, mais aussi grâce à François Hollande. Comme le montre l'évolution des courbes, l'ennemi de la finance a amorcé le mouvement. Heureusement que la finance n'était pas son ami. L'INSEE s'est attaché plus particulièrement à la situation des 0,1% des Français disposant des revenus les plus élevés, soit 40 700 foyers en 2022. Le revenu moyen de ces déshérités est d'un million d'euros par an. Il a augmenté de 119% entre 2003 et 2022. C'est 2,6 fois plus que les autres foyers fiscaux. À l'Assemblée, des hommes courageux se dressent pour repousser l'offensive des partageux. Ils voteront contre le volet recettes du budget.
On votera contre parce que le volet recettes a été profondément dénaturé, avec effectivement un concours Lépine fiscal qui dépasse l'entendement, en tout cas de notre point de vue. Voilà, donc de ce point de vue-là, ça n'est pas la copie qu'on peut accepter. Et refuser les recettes, ça n'est pas forcément refuser le budget, mais c'est de refuser cette tendance qu'il y a eu à créer de la fiscalité et encore de la fiscalité.
Même les macronistes n'y retrouvent plus leurs petits.
Cette partie 1 du budget, elle est difficilement votable. Pourquoi ? Je rappelle qu'en commission, nous avions voté pour cette partie recettes, taxes et impôts du budget. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hémicycle ? Le Rassemblement national, aidé par la France insoumise, ont voté des horreurs pour notre économie. C'est des taxes de 30 milliards d'euros supplémentaires sur les entreprises françaises pour écraser notre économie et écraser l'emploi. Et évidemment, ça rend très difficile le vote de cette partie taxes et impôts du budget. On se battra, nous, jusqu'au bout, évidemment, pour supprimer ces horreurs du budget, ces horreurs fiscales. Et donc on demandera notamment aux forces raisonnables, côté Parti Socialiste et Écologiste, de ne pas s'associer, parfois par une abstention, à ce type de taxes supplémentaires.
Paul Midi en appelle aux forces raisonnables. C'est raté. Écoutez Olivier Faure.
Pour l'instant, là, le compte n'y est clairement pas. Et comme on ne veut pas augmenter le déficit, il faudra trouver des recettes nouvelles. Et c'est la discussion qui doit se prolonger avec le gouvernement. Mais au moment où nous nous parlons, évidemment, le compte est loin d'y être. Et s'il devait y avoir un vote demain, sans changement de la part du gouvernement, nous voterions contre.
Hier soir, la direction du PS et le groupe parlementaire ont décidé que les députés se prononceraient contre la partie recette du budget. Mais y aura-t-il seulement un vote ? C'est dimanche à minuit que se termine le délai accordé à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi de finances en première lecture. Et tout laisse à penser que les députés ne pourront au mieux que voter la partie recette. Encore n'est-il pas sûr qu'ils y parviennent. Éric Coquerel, en sa qualité de président de la Commission des finances, a demandé au ministre en charge des relations avec le Parlement s'il envisageait un délai supplémentaire.
La réponse est venue hier. Le gouvernement n'en a pas l'intention. Et donc, dimanche à minuit, ils siffleront, comme ils l'ont fait pour le PLFSS, la fin des examens. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas terminé à ce moment-là, il n'y aura pas de vote, même sur la partie recette. Bon, je trouve que... le moins qu'on puisse dire, c'est une décision qui est problématique, dans le sens où je viens de vous le dire, le gouvernement a décidé de nous supprimer 2 jours ce week-end, et que, je vous le rappelle, nous avons entrepris la discussion budgétaire avec 2 semaines de retard par rapport à ce qui est prévu initialement, c'est-à-dire le temps que le gouvernement envoie et transmette des textes de projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'Assemblée. Bon. Alors, cela dit, il semble qu'hier, les présidents de groupe du socle commun se sont entendus à Matignon pour, un, accélérer les débats et, deux, rejeter le texte. Apparemment, un vote contre les arrange aussi. Donc, il est peut-être quand même possible que nous finissions par voter ce texte qui, on peut se demander, dont on peut se demander s'il aura une seule voix pour. C'est ça la réalité aujourd'hui sur le terrain, puisqu'il ne correspond à rien.
Éric Coquerel souligne avec raison l'absurdité de la situation. Sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, il n'y en a aucun à ce stade qui se soit prononcé en faveur du projet de loi de finances. Ainsi, la France insoumise votera contre, comme le Rassemblement national.
Sur le budget, Madame Le Pen, ça vous inquiète qu'un budget soit pas voté? Est-ce que vous êtes inquiète?
Je suis contre.
À quoi bon alors poursuivre ces débats qui sont devenus illisibles pour l'opinion, tant la procédure parlementaire est complexe?
Effectivement, il y a un peu un jeu de dupes, puisqu'on sait très bien comment ça va se terminer, soit par ordonnance, soit par une loi spéciale, tout ça à cause du petit accord entre le PS et le gouvernement. Bah oui, ça sert quand même à une chose, c'est d'expliquer par chaque amendement les mesures qu'on prendrait si nous étions au pouvoir, de débattre dessus, parfois de changer d'avis, ou parfois de convaincre les autres. Donc c'est finalement un gigantesque lieu d'exposition de programme. Et donc en cela, c'est utile. Le débat est toujours utile.
De son côté, le Sénat a commencé hier l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Sans surprise, il détricote le travail des députés. Déjà écarté en commission, la suspension de la réforme des retraites devrait être supprimée. J'en profite pour corriger ici la mauvaise lecture que j'ai donnée lundi de la règle dite de l'entonnoir. L'Assemblée pourra rétablir cette suspension de la réforme lorsque viendra l'heure de la deuxième lecture. Merci à Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe écologiste et social, de m'avoir éclairé, ainsi que quelques confrères sur l'avis trépidante des amendements de suppression. La commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, devrait se tenir autour du 15 décembre. Il y a peu de chances qu'elle débouche sur un texte de compromis. Sachant que le vote solennel du projet de loi de finances doit intervenir le 23 décembre plus tard, la deuxième lecture du texte n'ira vraisemblablement pas à son terme. On s'achemine donc vers une loi spéciale, reconduction à l'identique du budget de l'année précédente, ou une ordonnance budgétaire, ce qui serait une première sous la Ve République. Résumons, la France est aujourd'hui dirigée par un gouvernement minoritaire dont le principal projet de loi, le budget, ne sera voté par aucun député. Et c'est pourtant ce même gouvernement qui va imposer son budget grâce à des institutions dont on découvre chaque jour le caractère pernicieux. Qui peut croire encore que notre pays se porte bien? Merci d'avoir regardé cette chronique. Comme d'habitude, pouces et partages sont bienvenus, comme les abonnements à la chaîne. Au passage, je vous signale l'enquête d'Antoine Netchetto sur la face cachée de TikTok. Ce nouveau tour de la question a été mis en ligne hier. Il fait écho aux travaux de la récente commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le sujet. Pour nous soutenir, c'est sur DonorBox que ça se passe. Vos dons restent notre principale ressource. Je vous rappelle que chaque donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons, et ce, dans la limite de 20% du revenu imposable. Merci à tous ceux qui nous accompagnent déjà. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express.